Nous poursuivons toujours la lecture de l'Évangile selon Luc. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve au chapitre 14, pour ceux qui souhaitent suivre en même temps, et des versets 25 à 33 inclus. Donc, Luc 14, 25 à 33. Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « En voilà un qui a commencé de construire, mais qui a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 soldats. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Voilà un texte vigoureux pour la rentrée. S'il y a un moment opportun pour lire ce texte et méditer un peu sur les propositions qu'il nous fait, c'est bien au moment de la rentrée, à l'orée d'une nouvelle année où, plus que jamais, il est important de garder le sens des priorités, des urgences et même de la hiérarchie entre le préférable et tout le reste. Si nous travaillons ensemble au sein d'une église, c'est aussi pour faire un peu ce travail de tri, de choix, de décision, d'orientation. Discernement donc. Le passage de l'évangile de Luc que nous méditons aujourd'hui nous place devant une exigence vraiment radicale. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Voilà vraiment une manière tout à fait radicale de nous replacer devant les bonnes priorités. Les paroles de Jésus adressées à la foule, sûrement nombreuse, qui le suivait, résonnent avec une intensité qui peut nous troubler un petit peu. Est-ce bien raisonnable de prêcher l'amour à certains moments pour nous doucher à l'eau froide avec ce genre de propos? Mais malgré leur dureté apparente, il se pourrait que ces paroles nous parlent aussi de vérité et de liberté. Luc nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Nous pourrions imaginer une marche assez joyeuse, presque triomphale, avec Jésus qui marche devant comme le petit cheval blanc, fasciné par des miracles, touché par des paroles, son enseignement, etc. On pourrait dire qu'il y a un véritable engouement, un enthousiasme manifeste. Mais ces paroles-là ne cherchent pas à séduire, c'est le moins qu'on puisse dire, ni à multiplier les adhésions superficielles. Si vous faisiez partie de cette foule, vous, dès les premières phrases, vous auriez plutôt envie de dire à votre voisin, pas commode celui-là, je vais peut-être me chercher un autre prophète. Quelle méthode est utilisée ici? La provocation, une manière de décourager la simple curiosité ou l'habitude? Il y a des gens qui suivent par habitude. Combien d'entre nous sont venus ici par curiosité pour finir par rester, en fin de compte, par habitude? Dirions-nous ce genre de choses à ceux qui nous rejoignent, uniquement pour nous assurer de la profondeur de leur engagement? C'est peut-être ce que Jésus essaie de faire ici, d'une certaine manière, susciter un besoin de s'engager en toute connaissance de cause, sans fuite en avant, dans l'habitude, sans recherche excessive de confort non plus. essayer cette position semi-confortable ou semi-inconfortable, hein, c'est selon, qui nous met un peu à mi-chemin entre ces deux écueils. On serait tenté de trouver la méthode un peu rude et pas forcément efficace d'ailleurs, notamment à une époque où nos communautés protestantes historiques notamment, sont loin de faire le plein. Assouplir un peu les règles de recrutement paraîtrait assez sage, même assez prudent. Oui, il reste encore des places. Mais nous savons aussi que si nos églises se sont en grande partie vidées de ceux qui venaient plus tôt par habitude, cette famille, donc tout le monde y va, bon, c'est terminé ça, en gros, hein, ou par une contrainte plus ou moins forte, une sorte de pression sociale, hein, parce que c'est de bon ton, ou bien qu'est-ce qu'on va dire de moi si je n'y vais pas, ça aussi c'est quasiment terminé. Si elles se sont vidées de ceux qui ne venaient qu'avec ce type de raison, elles ont en parallèle accueilli bon nombre de personnes qui ne pensaient pas venir un jour dans une église. Et y rester, et pas par habitude, mais parce qu'elles ont quelque chose d'essentiel à y faire, finalement, avec l'habitude, parce qu'il y en a aussi de bonnes. Au fond, ce dilemme entre la joie d'être chez soi et l'effort de se demander ce qu'on fait là, un confort équilibré par un inconfort, ou l'inverse, comme vous voudrez, c'est un peu l'ordinaire des églises depuis le début, sinon on ne nous dirait pas ces choses, on ne nous raconterait pas cette parabole il y a un peu plus de 2000 ans. Ces questions s'adressent donc à chacun, chacune d'entre nous, pour évaluer les raisons que nous avons d'être là, aujourd'hui ou en général. Qu'est-ce qui me semble prioritaire dans le fait d'être là ? C'est une question qui se pose où qu'on aille finalement, donc aussi dans une église. Mais malgré tout, le choix cruel entre les engagements personnels et tout le reste paraît excessif. On a beau le relire plusieurs fois, ce passage, on se dit qu'il y va un peu fort tout de même. Les documentaires très nombreux qu'on peut trouver sur le mécanisme de l'emprise sectaire dénoncent tous avec force la séparation brutale d'avec la famille. C'est une constante, hein, vous le trouvez à chaque fois ou presque, la rupture des liens structurants. Ils pointent systématiquement les discours aliénants des gourous qui annoncent à leurs adeptes « Ta nouvelle famille, maintenant, c'est moi et rien que moi ». Faut-il prendre ce texte en exemple ? Et comment l'empoigner, ce texte ? Rappelons tout de même que dans le texte grec, le verbe utilisé est décidément bien fort. Et on ne peut pas gommer la force de ce verbe. Il signifie littéralement détester, ce que certaines traductions ont choisi. La seconde, par exemple, la nouvelle seconde, détester, d'autres haïr, etc. Et il n'y a pas d'erreur dans le fait de traduire de cette manière-là. Mais il y a peut-être aussi, c'est un parcours un peu plus compliqué, une sorte de sémitisme caché dans le grec. Donc il faut ouvrir la miche de pain et aller chercher au fond de la mie quelque chose qui nous dit ce qui est entendu là. Dans le contexte sémitique, ça signifie, c'est un peu la manière de formuler une préférence. C'est pour ça que certaines traductions ont choisi plus doucement de rééquilibrer un peu les deux choses pour nous dire préférer un tel à tel autre. Ça fait une marche un peu moins haute à monter. Il reste que, quelle que soit la force de la traduction, ou sa pertinence plutôt, Jésus n'appelle pas à un reniement douloureux, parce que c'est aussi dans l'histoire, on ne peut pas lire un texte sans se rappeler les utilisations parfois bien mauvaises qui en ont été faites au cours des siècles, et il y en a. Pas d'encouragement à la souffrance, un reniement douloureux, mais plutôt établir une sorte d'ordre juste dans nos attachements. C'est pour ça d'ailleurs que les deux paraboles qui adoucissent un petit peu la consigne de départ nous proposent quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la mesure. Les racines sont précieuses parce qu'elles donnent un ancrage, mais nous le savons bien aussi, elles peuvent être un enfermement terrible, surtout si la société vous y assigne à ses racines, vous y enferme. La nôtre, soi-disant éprise de liberté ou d'individualisme, encourage de plus en plus ces retours collectifs à l'origine peut-être parce qu'elle n'a plus grand-chose à dire sur un avenir collectif à construire ensemble. C'est plus facile de vous renvoyer à votre passé, au moins il est là. Un avenir flou, à décider ensemble, à construire ensemble, c'est plus compliqué. Dans ce sens, les paroles de Jésus ne sont pas justement un enfermement. Et malgré leur dureté apparente, elles seraient plutôt une sorte d'appel du large, un besoin d'air venu d'ailleurs malgré le risque qu'il faut mesurer prudemment, mais risque tout de même. Ici, Jésus joue plutôt le rôle du tiers qui nous donne une vocation à construire, qui met un petit peu en danger, nous place devant de l'inconnu, des engagements possibles que nous devons nous identifier, loin des attaches qui servent de repère, mais qui raccourcissent aussi l'horizon, surtout, encore une fois, si on vous y attache. Il y a ici un élargissement qui donne assez d'espace, je crois, pour s'épanouir, pas une nouvelle prison. C'est pour ça que Jésus n'était pas un gourou. C'est pour ça qu'à de nombreuses circonstances, il a toujours échappé à cette tentative de mainmise, parce que c'est un rôle qu'on a voulu lui donner. Et il aurait très bien pu l'accepter, il aurait peut-être mieux fini, d'ailleurs. Mais cet espace de liberté est peut-être à bâtir ou à conquérir soi-même, comme si ceux qui se mettent à la suite de Jésus devaient être un peu explorateurs dans l'âme. Il faut quand même un peu de goût du voyage, du goût de départ. C'est ce qu'ont fait ceux qui ont laissé derrière eux leur filet. Ils auraient pu rester où ils étaient. Dans cette perspective, préférer le Christ, parce qu'il y a bien une préférence, une hiérarchie, un ordre qu'on nous propose, n'est pas un faux choix entre une famille aliénante et un nouveau gourou. Parler d'un choix. Ça devient plutôt la clé de toute relation humaine. Dans nos églises comme ailleurs, le disciple n'abandonne pas sa famille, mais il apprend à recevoir d'autres familles, repérées, choisies, rejointes et habitées pleinement. C'est un autre type de famille. Plus loin, Jésus ajoute « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple ». Le mauvais goût voudrait qu'on dise que Jésus ici enfonce le clou, ce que je ne vais pas faire. La croix, c'est l'instrument de supplice des condamnés, pas très engageant non plus comme exemple. Quel est le rapport entre la croix et des fausses sécurités dont on peut s'éloigner parce que ça coûte un peu, mais sans trop de risques? Pourquoi choisir alors que ces deux lieux finalement sont dangereux, l'un brutalement, tout de suite, immédiatement, et l'autre plus lentement, à petit feu? Porter sa croix, c'est peut-être se décentrer pour mieux rejoindre l'itinéraire de quelqu'un d'autre. C'est faire un pas de plus dans l'éloignement du sentier battu, entrer dans une logique pascale, la logique de la Pâque. La mort n'a pas le dernier mot dans tout ce que nous faisons, mais elle est un passage vers la vie, d'abord de la vie à la mort, puis de la mort vers une vie autre, que nous avons su transformer, affronter par courage. Là encore, pas de dolorisme, mais une invitation au voyage, initiatique, ces voyages qui coûtent, qui prennent du temps, sans doute, mais qui révèlent surtout la place de chacun. Luc rapporte ensuite ces deux petites paraboles dont le sens est bien simple. Avant de bâtir, on calcule le prix. Avant de partir au combat, on évalue ses forces, sinon on agite le drapeau blanc et puis on se calme. Avant de suivre le Christ, il faut accepter d'en payer le prix, mais donc de l'évaluer au préalable. Jésus ne promet pas ici un chemin facile, mais il nous appelle à un engagement entier. Il ne s'agit pas de repousser l'appel en adoucissant l'invitation pleine et entière du début, par ces deux paraboles qui semblent nous inviter à la mesure, mais de le recevoir dans la vérité, c'est-à-dire dans la vérité de notre instant, au moment où il s'agit de faire ce choix, avec quelle ressource, avec quelle force, quelle disponibilité. En méditant ce passage, il faut se laisser interpeller par la radicalité de l'appel qui résonne dans ce texte, une provocation toujours un peu là pour quelque chose. Il y en a de gratuites, mais dans les paraboles des évangiles, rarement. Elles débouchent toujours sur quelque chose. La radicalité qui résonne dans ce texte, si nous la comprenons bien, nous situe à bonne distance de je ne sais quelle souffrance nécessaire, des ruptures hasardeuses ou des basculements dans tous les pièges qui se présentent à nous. Elle tient ces choses-là à l'écart. Provoquer n'est pas mettre quelqu'un en danger. Luc ne promet pas la facilité, mais il assure d'une présence. Choisir le Christ, préférer le Christ au reste, le mettre devant et le suivre, c'est ça, être disciple. Porter notre croix même chaque jour, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de ce processus qui fait passer finalement de la mort à la vie, à une vie autre. C'est un chemin exigeant, mais aussi le chemin de la vraie liberté et de la vraie joie, parce que dans ce cheminement, personne ne le fait à votre place. Et s'il est à mi-distance, ou à bonne distance, en tout cas, entre nos ancrages précieux, toujours précieux, et un avenir à construire. Alors, nous pourrons, nous, à la suite de la foule qui écoutait Jésus ce jour-là, malgré la rudesse du propos, devenir des témoins de son royaume, des bâtisseurs de paix, des porteurs de lumière dans un monde qui en a bien besoin. Amen.